Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la mise en place de couvertures de santé dans les pays en développement avec Annick Janté, qui est consultante sur la couverture santé universelle à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Charlotte Soulary, qui est chargée de plaidoyer santé Oxfam France, et Patrice Sanon, qui est secrétaire exécutif de l'Organisation pour le droit à la santé et au développement au Burkina Faso. Juste avant les informations, on était en train de parler du cas du Sénégal qui vient de mettre en place cette couverture de santé au 1er octobre avec une installation progressive suivant les populations. Patrice Sanon, j'aimerais bien vous faire réagir au témoignage qu'on a entendu de cette maman qui dit finalement, voilà, j'ai un diabète et des problèmes d'hypertension, les soins de la médecine occidentale me coûtent beaucoup trop cher, donc j'ai recours à la médecine traditionnelle. Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez au Burkina Faso?
Oui, je pense que la situation du Burkina Faso est beaucoup plus évidente parce que Burkina, 8 personnes sur 10 renoncent aux soins de santé pour des problèmes d'argent.
8 personnes sur 10 ?
8 personnes sur 10. Donc du coup, la médecine traditionnelle, c'est quelque chose de très courant et la situation est encore pire parce que on a chez nous ces médicaments qu'on appelle couramment médicaments de la rue qui sont un peu partout dans les mains des jeunes qui les vendent et les gens s'en procurent parce que vous retrouvez exactement les mêmes produits qui sont dans les pharmacies, seulement qu'elles sont périmées ou bien c'est des produits contrefaits.
C'est ça, on ne sait pas dans ces médicaments qui sont vendus dans la rue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Non, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et quand on n'a pas l'argent pour aller payer en pharmacie, on paye dans la rue et on avale. Et là, c'est franchement courant, quoi.
Charlotte Soulary, juste avant les informations, vous nous disiez que finalement, un des problèmes, c'est la question de l'information. C'est-à-dire, le public n'est pas forcément tellement au courant des soins qui peuvent être gratuits, de l'existence de mutuelles de santé, c'est ça en fait?
Oui, pour les gens, quand on parle de couverture maladie universelle, on parle d'accès gratuit aux soins. C'est-à-dire, j'ai un problème de santé, mon enfant a un problème de santé, je vais au centre de santé, je suis en capacité de le soigner, d'avoir quelqu'un qui peut s'occuper de son problème. Ça signifie avoir que derrière ça, il y a une politique qui permet...
Parce que le financer, c'est pas gratuit.
Oui, la gratuité, c'est...
Au bout du compte.
Exactement. C'est du prépaiement, la plupart du temps, du prépaiement individuel ou collectif. C'est-à-dire que l'idéal, c'est un système de solidarité, de redistribution, où les personnes qui ont les moyens peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être via des taxes. Hein. Et celles
c'est
qui
ça,
n'ont pas les moyens
ne cotisent pas. Quand c'est public, il y a deux grands moyens de cotisation, ou sur l'impôt, ou finalement sur le salaire, ce qui est le cas par exemple chez nous en France, c'est sur le salaire.
Voilà. Sauf que quand on est dans un pays comme très fréquemment en Afrique, où 80% de la population travaille dans le secteur informel, la cotisation via le salaire, c'est extrêmement compliqué. D'où le fait que les politiques s'appuient souvent sur des mutuelles sociales ou mutuelles communautaires. Enfin, il y a différents noms selon les pays qui sont là des systèmes de cotisation volontaire hein, sur la base de... Le choix individuel d'aller cotiser. La difficulté, c'est que ce choix, c'est pareil, hein, il faut avoir les moyens d'aller cotiser, qu'on en ait envie ou pas, c'est une question de moyens.
Au Sénégal, voilà. C'est 3500 francs CFA, 6 euros, il y a des gens pour qui c'est un obstacle par an?
Tout à fait. Une des études de faisabilité que le gouvernement sénégalais a fait était de voir les dépenses annuelles de santé des ménages. Ils ont été voir ça en fonction des régions du Sénégal et en fonction du niveau de richesse de la population. Donc en gros, plus ou moins classé en 5 quintiles de richesse, du plus riche au plus pauvre, quelles sont les dépenses annuelles de santé. Donc ça, c'est sur la base déclarative. Et on s'est aperçu que dans plusieurs régions du Sénégal, 3 quintiles sur 5 hein, de la population dépensaient moins que ce montant-là, moins de 3500 francs CFA par an, par personne, pour la santé. À partir de là, voilà, c'est ça la réalité, c'est que une grande partie des populations n'a pas les moyens
de cotiser finalement à des mutuelles.
Aujourd'hui, n'a pas les moyens de payer, donc n'aura pas non plus les moyens de cotiser. Okay, il faut vraiment prendre ça en compte et être sur des systèmes solidaires.
Tout à fait. Mais alors, du coup, Annick Janté, on finance comment l'installation de cette couverture santé universelle?
On la finance comment? D'abord, on estime qu'il faut quand même que l'État, que les gouvernements soient un peu plus responsables et investissent plus dans leur système de santé. C'est-à-dire qu'ils augmentent le pourcentage qui est consacré au budget de santé de leur pays. Ça, c'est une première chose.
On le répète régulièrement dans cette émission, à Abuja, les
15%,
pays... Voilà, c'était engagé à 15% de leur PIB. Et on en est, en gros, dans les pays africains, entre 5 et 7%, c'est ça?
Oui, enfin bon, après, il y en a quelques-uns qui arrivent à 11, 12, 13, enfin, il y a quand même quelques progrès, mais il n'y a pas de secret, il faut vraiment consacrer beaucoup plus. Il faut prendre conscience, en fait, il faut que les gouvernements prennent conscience que d'avoir une population en bonne santé, c'est une population qui aussi participe économiquement à son pays, qui participe au développement de son pays. Donc, il faut investir dans les secteurs sociaux. Santé, éducation, c'est obligatoire.
Et c'est rentable financièrement.
Et c'est rentable.
Patrice Sanon, juste par exemple sur le Burkina Faso, vous savez quel est le pourcentage du PIB consacré à la santé? Ou je vous pose une colle de but en blanc?
Oui, on nous dit que le Burkina est aujourd'hui à une contribution de près de 15% de son budget. C'est ce que les chiffres officiels font ressortir. Mais nous disons que sur le terrain, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment.
C'est pas visible.
En ce qui concerne les financements de la santé. En dehors de ça, je pense que la déclaration d'Abuja, elle date de 2001.
Il faudrait peut-être la mettre à jour, c'est ça?
Peut-être que la prévision pour jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2015, c'était une prévision quand même assez hypothétique. À partir du moment où le Burkina Faso aujourd'hui, de 2001 à 2013, le Burkina Faso a presque augmenté, doublé sa population. Voilà. Donc c'est franchement une prévision qui faut remettre à jour.
Qui vous paraît pas suffisante. Donc ouais. Annick Janté, vous étiez en train de nous dire, premièrement, sur ces questions de financement de cette couverture maladie, il faut que les États s'engagent plus.
Voilà, il faut que les États s'engagent plus. Et ensuite, il faut qu'il y ait une augmentation en fait des ressources domestiques. C'est-à-dire que qu'on mette en place les gouvernements mettent en place des systèmes de taxation. Alors ça peut être effectivement taxation des richesses là où elles sont, hein, c'est-à-dire
entre
les compagnies
de l'impôt.
Oui, collecte de l'impôt, donc sous de revenu général, hein, donc tout ce qui est entreprise, hein, tout ce qui est je sais pas moi compagnie extractive,
par exemple
entre autres.
Donc la collecte de l'impôt qui
la collecte de l'impôt qui est quand même à mon avis pas du tout encore suffisamment mise en place et structurée dans les pays, ce qui fait qu'il y a une grande perte de ressources pour les gouvernements. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi de mettre un système de collecte publique avec un investissement donc public fort et de s'assurer en fait ce qu'on appelle en anglais un pooling system, c'est-à-dire une mise en commun des fonds pour éviter justement une fragmentation des systèmes de santé. C'est-à-dire que si on a un système de mutuelle qui est de mutualisation des fonds, on peut justement faire jouer la solidarité et non plus donner des soins en fonction de ce que les gens ont payé, mais en fonction des besoins. Et ça, c'est essentiel. Et effectivement, c'est aussi important, et même si là-dessus, je comprends sa position effectivement sur le fait que les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent pas payer. Donc, comment on fait pour le secteur informel? Mais les participations volontaires ne fonctionnent pas parce que c'est pas stable, ça s'arrête n'importe quand et du coup c'est pas là-dessus qu'on peut effectivement prévoir comment. Donc il faut un système de participation obligatoire.
Ce qu'a fait le Rwanda, si je ne me trompe.
Le Rwanda, il a mis en place au départ effectivement un système de obligatoire. Mais l'autre chose aussi auquel il faut pas qu'il faut pas oublier, hein, c'est que il y a aussi l'aide publique au développement, donc l'aide des pays donateurs, qui est essentielle, notamment pour les pays les moins développés, parce qu'il faut permettre justement de combler le gap qui existe dans les budgets nationaux.
Et alors c'est là que le bât blesse. J'avais envie de vous demander que fait la communauté internationale, que font les bailleurs de fonds? Vous avez bien dit qu'il fallait que les États en question s'investissent plus, mais alors que fait la communauté internationale? Est-ce que c'est une question qui les intéresse?
C'est une question qui les intéresse, oui. L'aide publique au développement, c'est quand même une question qui les intéresse. Après, effectivement, on sait très bien que sur le long terme, elle va pas progresser, qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la santé dans les 10 dernières années. C'est pour ça qu'on encourage aussi aujourd'hui les États à être de plus en plus autonomes et essayer de voir comment ils peuvent se financer. Mais ça n'empêche pas qu'il reste de l'argent. Il reste beaucoup d'argent. Et que cet argent doit être priorisé sur des besoins, sur des populations et pas sur des choix politiques, d'influence, etc. Donc je pense qu'on n'est pas dans une situation où c'est la catastrophe et qu'il n'y aura plus un centime sur l'aide publique au développement, mais il faut par contre qu'elle soit beaucoup mieux dirigée,
entre autres sur ces
questions santé et éducation.
Charlotte Soulary, je l'ai dit, à Oxfam a lancé une campagne sur cette question de la couverture de santé. Concrètement, vous demandez quoi et il faut faire comment?
Alors concrètement, on demande justement ce que vient de dire Annick Jeantet, une augmentation de la part de l'aide française au développement dédiée à la protection sociale en santé. On demande que la protection sociale en santé, ça soit aujourd'hui l'une des grandes priorités de l'aide française au développement, comme ça l'est déjà dans la politique internationale de la France, hein, puisque la France fait partie des États qui, à l'ONU, défendent ardemment cette couverture santé universelle. La France fait partie des États qui ont été à l'origine, enfin, et l'État même qui a été à l'origine de la résolution de décembre 2012 à l'ONU qui dit justement que la couverture santé universelle est une priorité et doit être une priorité, notamment dans les discussions sur les objectifs de développement après 2015. Donc, voilà, maintenant il s'agit de pouvoir se donner les moyens d'appuyer les États qui ont des politiques nationales qu'ils souhaitent développer, des politiques nationales de protection sociale, des politiques nationales également de mobilisation de ressources domestiques pour financer ce genre de politique de gratuité des soins, enfin d'accès gratuit aux soins, de protection sociale en santé. Et aujourd'hui, dans l'aide au développement de la France dédiée à la santé, la protection sociale en santé, c'est même pas 0,5%.
Donc il faudrait augmenter cette part.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons de la mise en place de couvertures de santé dans les pays en développement. Patrice Sanon, vous êtes secrétaire exécutive de l'Organisation pour le droit à la santé et au développement au Burkina Faso. Concrètement, pour une mise en place d'une assurance maladie au Burkina Faso, qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Est-ce que c'est cette question dont on venait de parler, de savoir comment on finance, ou c'est aussi simplement l'effectivité basique sur place ?
Et je pense que la chose la plus complexe, c'est de pouvoir prendre en compte l'intérêt général des populations. Et nous disons que l'État, nous tenons l'État pour responsable en ce qui concerne l'accès aux soins des populations. Donc je pense que tous les efforts doivent être mis en place pour quand même étudier, trouver les voies et moyens nécessaires, mettre en place une politique forte et définir les paquets de soins et ensuite voir comment les uns et les autres vont contribuer.
On entend beaucoup dire de plus en plus que quand même investir dans la santé, c'est finalement rentable économiquement. Est-ce que ça, c'est un discours qui commence à passer au Burkina Faso ? C'est-à-dire, ça ne fait pas que coûter, ça peut rapporter.
Oui, je pense que c'est un discours qui passe et qu'on comprend, mais il va falloir encore peut-être sensibiliser davantage pour que les uns et les autres comprennent, à commencer par l'État.
Et voilà. Une fois que cette couverture de santé sera mise en place, est-ce que les structures de santé ont finalement la capacité, est-ce qu'il y a suffisamment de médecins infirmiers pour accueillir tous les malades ?
Oui, c'est tout ça le problème et les défis pour la mise en place de l'assurance maladie au Burkina Faso. Parce que on a quand même un système de santé un peu faible. Voilà, aujourd'hui, vous avez de plus en plus la fuite du personnel de santé vers des cliniques privées parce que beaucoup ils sont plus mieux rémunérés et voilà.
Donc la crainte, elle est là aussi.
Vous voulez réagir. La crainte est là, oui.
Charlotte Soulary, vous voulez réagir par rapport à cette question. Est-ce que finalement, les systèmes de santé de ces pays en développement ont la capacité d'accueillir tous les malades qui en auraient besoin ?
La protection sociale en santé, c'est un sujet qui est absolument indissociable de la question du renforcement des systèmes de santé globalement. On parle de renforcement des capacités en personnel, en infrastructure, de lutte contre les ruptures de médicaments. Et tout ça, c'est effectivement une question d'augmentation des budgets nationaux dédiés à la santé, d'avoir des systèmes qui permettent réellement d'être ambitieux sur ce sujet. Et ce que vient de dire Patrice Sanon sur effectivement, on voit beaucoup de médecins qui travaillent dans le système public, qui l'après-midi vont travailler en clinique privée parce qu'ils sont pas suffisamment rémunérés. C'est ce qu'on a vu au Brésil et qu'on voit dans de nombreux pays. Dès lors que l'investissement dans les politiques nationales de santé n'est pas suffisamment fort, on a le risque de se retrouver avec des systèmes de santé à deux vitesses où les plus riches vont trouver un système de qualité dans le secteur privé, payant, et les plus pauvres, un système gratuit qui est dépourvu. Donc on est toujours sur cette question de l'investissement dans la santé de manière globale et le renforcement de systèmes publics de santé.
Je peux vous dire que moi, quand je suis en reportage en Afrique, dans les hôpitaux, je sais bien qu'il faut que j'y aille le matin, parce que si j'y vais l'après-midi, j'ai 9 chances sur 10 de pas trouver les médecins, donc ça va être un peu plus compliqué pour faire mon reportage. Donc je pense que c'est très révélateur. C'est pas forcément d'ailleurs un reproche, ils ont un problème pour gagner leur vie, mais c'est quand même un peu compliqué quand l'après-midi, il n'y a plus personne à l'hôpital. Annick Jeantet, qu'est-ce que vous faites fait, là, justement, vous, en tant que conseillère à l'OMS sur ces questions-là, mais concrètement, d'abord cette question du renforcement des systèmes de santé, est-ce que les systèmes de santé ont la capacité d'accueillir tous les malades?
Mais non, mais c'est ça l'intérêt du... Justement, c'est ça l'intérêt de la CSU, c'est que...
La couverture santé universelle.
Oui, pardon, excusez-moi, je vais
si
un peu vite,
j'ai un peu trop l'habitude. Oui.
Non, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il faut progresser... étape par étape, et que c'est pas uniquement le fait de retrouver plus d'argent, c'est aussi avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire une vraie penser vraiment une politique en santé. Donc il faut renforcer les ressources humaines, s'occuper des infrastructures, s'assurer qu'il y a un acheminement des médicaments qui fonctionne. Et tout ça, évidemment, c'est une politique, et c'est pour ça que parfois on fait aussi beaucoup de reproches au gouvernement en général, en disant que voilà, un peu rapidement, souvent ils font
pas assez vite.
Ouais, non, mais c'est surtout qu'ils font des promesses au moment des élections, des élections, en disant bah voilà, il y aura la gratuité, etc. Mais s'il y a une gratuité qui est pas réfléchie, qui est pas pensée en amont sur une vraie structure, une vraie stratégie de la santé, une politique de santé fiable, ça marche pas. Au Salvador, ils ont mis en place en 2010 effectivement la CSU. Ils ont regardé ce qui se passait au niveau des ressources humaines. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont doublé les salaires des médecins, des infirmières, etc., en zone rurale. Pourquoi ? Uniquement pour justement essayer de stabiliser en fait
le personnel de santé
sur place, qui permettent du coup d'avoir accès aux soins et d'avoir au niveau des populations qui sont les plus éloignées, de pouvoir aller être sûr de trouver un médecin ou une infirmière quand ils en ont besoin.
Alors justement, Annick Janté, est-ce que vous pourriez me citer un pays en développement qui ces dernières années a mis en place cette couverture de santé et pour qui ça a bien fonctionné ? On peut dire que c'est une réussite.
Bon, il y en a pas mal qui sont... Alors, ça dépend ce qu'on appelle réussite. On est bien d'accord. Non, mais après, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des...
Oui, mais chez qui on trouve que ça a marché, vraiment?
On trouve qu'en Rwanda, ça a marché, mais on sait très bien qu'au Rwanda, ils ont été aussi beaucoup subventionnés par l'aide internationale. Mais ça a marché, et ça fonctionne. Si on prend l'exemple de la couverture, du nombre de populations couvertes, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça fonctionne. Par contre, ça veut pas dire que...
Il y a des soins de qualité
au bout. Voilà, donc il faut vraiment prendre ça un petit peu en fonction de ce qui est l'exemple le plus flagrant aujourd'hui. Tout le monde me dit, mais oui, mais c'est pas un pays en développement, c'est la Thaïlande qui en 10 ans a couvert sa population d'une manière et
avec
ça marche
une vraie
très,
volonté
très
politique.
Bien et une vraie politique. Mais je sais pas, moi, le Sri Lanka a mis ça en place aussi il y a une trentaine d'années, ça fonctionne très très bien. Le Rwanda, ça marche très bien.
Le Ghana
avec des complications, mais ça fonctionne aussi mieux qu'avant. Le Gabon, ça marche très bien au Gabon. L'Afrique du Sud,
beaucoup d'accès aux soins quand même au Gabon.
Mais ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on met ça en place qu'il y aura plus de problèmes.
Ils ont du mal à récupérer leur carte. On a eu plusieurs témoignages, nous, d'auditeurs qui nous disent que leur carte de couverture maladie, ils ont du mal à la récupérer. Voilà.
Oui, n'empêche que si vous prenez le Gabon et que vous comparez à d'autres pays africains, ça
c'est
va beaucoup mieux au Gabon qu'ailleurs.
D'accord.
Voilà, l'Afrique du Sud, c'est pareil. Ils sont en train de revoir toute leur politique de santé et du coup, ça avance aussi dans le bon sens.
Annick Janté, on arrive à la fin de cette émission. Quel est le rôle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur ces questions-là? Quel est votre rôle à vous en tant que conseillère?
Alors, moi, j'ai un rôle assez particulier parce que je suis en fait surtout pour essayer de trouver des synergies et développer en fait un soutien justement à la couverture universelle dans les négociations actuelles au niveau des Nations Unies sur les postes MDGs. C'est donc
les postes objectifs du millénaire pour le développement,
voilà.
Qui étaient beaucoup axés SIDA, paludisme,
voilà, très verticaux,
mortalité,
et on essaye de faire
maternelle.
En sorte que pour les prochaines négociations qui ont lieu en 2015, on ait une ouverture sur la couverture universelle maladie qui est une approche très horizontale et qui permettrait de couvrir tout le monde et plus justement
de mettre
en silo la...
Cette couverture maladie universelle dont on vient de parler devrait faire partie de ce qu'on appelle les postes OMD, les postes
voilà.
2015, ça devrait être
ouais,
là-dedans.
Ça,
ce serait le prochain objectif.
Ça, c'est l'objectif. Après, l'OMS en tant que telle, c'est surtout un appui technique. C'est de faire en sorte qu'effectivement, les gouvernements, il y a eu plus de 80 pays qui ont fait demande auprès de l'OMS de soutien technique pour la mise en œuvre, justement, de la couverture universelle maladie. Donc voilà,
dont
le rôle de l'OMS,
Faso,
c'est ça. Dont le Burkina Faso, dont le Sénégal, dont tous ces pays-là, bien sûr.
Merci beaucoup, Annick Janté, Charlotte Soulary, Patrice Sanon. On mettra toutes les coordonnées de vos différents organismes sur notre site Internet. Et bien sûr, vous êtes invité quand vous voulez pour nous parler de l'évolution de cette couverture de santé dans les pays en développement. On va terminer en parlant de la lutte contre les maladies négligées avec Bernard Pécoul.
Priorité santé sur RFI.
Pour terminer, je vous propose donc de parler des maladies tropicales négligées avec le professeur Marcel Tanner, qui est directeur de l'Institut tropical et de santé publique suisse. Il est président du conseil d'administration du DNDi. Et pour les 10 ans du DNDi, professeur Marcel Tanner, bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, pour ces 10 ans du DNDi, vous organisez un colloque international à l'Institut Pasteur sur le thème « Bilan des 10 dernières années de recherche pour lutter contre les maladies négligées ». D'abord, qu'est-ce qu'on entend par maladies tropicales négligées ?
Les maladies tropicales négligées doivent être distingués des maladies de pauvreté. Les maladies de pauvreté, c'est le paludisme, le sida et aussi la tuberculose. Mais en plus de ça, il y a des maladies comme la maladie du sommeil, la leishmaniose, Kala Azar, c'est le nom, ou la schistosomiase, les vers intestinaux, qui sont vraiment des maladies négligées. Négligées dans le sens qu'il y a beaucoup de populations négligées de pauvreté qui n'ont pas de traitements, n'ont pas accès à des traitements et où il n'y a plus de grands investissements pour la recherche et développement des médicaments, des traitements contre ces maladies.
Et ce sont des maladies plus fréquentes que ce qu'on peut imaginer.
Oui, si vous pensez que la charge totale de ces maladies négligées tropicales, ça s'augmente à 40 millions de dali, ça veut dire des années de vie perdues à cause en fait de la morbidité, de la mortalité ou aussi de la façon que les gens sont handicapés.
Alors quels sont les médicaments que vous avez pu élaborer avec le DNDi et quelles sont justement les avancées ?
Oui, je pense que le point le plus important, c'est d'abord de se mettre ensemble avec cette initiative de DNDi. C'est pas seulement de se concentrer sur les maladies négligées, les populations négligées, mais aussi de mettre ensemble le public, les privés, les ONG, avec pour une approche de développement, de découverte, de développement, mais aussi d'augmenter l'accessibilité pour les traitements. Et dans ce cadre-là, DNDi a commencé avec des grands succès d'établir deux traitements de combinaison contre le paludisme. Ça, c'est une maladie de pauvreté, mais aussi fréquente à cette époque-là qu'on a commencé très négligé. Et en plus, DNDi a pu vraiment pousser le développement des nouveaux traitements contre la maladie du sommeil. Et là, ce qui est important, ce n'est pas des traitements compliqués avec des perfusions, mais surtout des traitements qui sont maintenant dans le stade final d'essai clinique où le traitement est oral, à dose orale pour ces maladies très, très négligées, mais aussi, négligées aussi dans le sens que les gens sont vraiment loin des services de santé qu'il faut accéder et les diagnostiquer et traiter. Et en plus, nous avons en deuxième ligne, ce qui est une chose établie, qui est très important, établie des traitements contre Kala Azar, la leishmaniose, qui touche des gens en Afrique, en Inde. Et là, les DNDi a pu établir des nouveaux approches de traitement de combinaison qui sont maintenant en application dans ces régions touchées. Et finalement, la maladie du Chagas, c'est une trypanosomiase de l'Amérique latine. C'est là que DNDi était crucial pour pousser le développement des nouveaux traitements contre cette maladie très, très grave. Et finalement, nous avons aussi fait une réorientation avec notre portfolio. Ça veut dire que nous nous concentrons aussi sur les traitements des nourrissons ou des enfants, parce que les traitements pédiatriques de l'HIV. Le sida, parce que ça c'est une chose négligée, les traitements pour les enfants. Comme ça on peut dire, on a établi en fait une approche nouvelle pour le développement des traitements et on a déjà réussi dans pas mal de domaines de montrer que c'est possible et qu'on peut vraiment travailler, comme nous disons, la meilleure science pour les gens les plus négligés.
Et de façon très concrète, comment vous avez réussi à élaborer ces médicaments, à travailler entre autres avec l'industrie pharmaceutique ?
Absolument, il faut mettre le public et le privé ensemble, les chercheurs dans les universités, et de mettre ça dans des partenariats. C'est surtout virtuel, en fait, le siège de DNDi est à Genève, mais on travaille presque partout dans le monde où on cherche les équipes les plus performantes dans ces domaines-là de se mettre ensemble. Ce qui est important d'INDI, c'est pas seulement en fait une organisation basée par exemple au Nord. Nous avons des pays partenariats qui sont en fait impliqués comme le Brésil, comme l'Indonésie, comme le Kenya, qui sont en fait des membres fondateurs, et aussi l'Institut Pasteur, la France, membre fondateur, pour vraiment pousser ces collaborations, ces partenariats. Et ça, c'est le succès, c'est pas seulement d'être une organisation internationale basée en un endroit, mais avoir des racines dans les pays endémiques, les pays touchés. Et ça, je pense, ça, c'est un des aspects, en fait, les plus positifs de se rassembler derrière une telle initiative avec les gens qui sont vraiment touchés.
Professeur Tanner, juste une dernière question. Je l'ai dit, hein, vous organisez un colloque international à l'Institut Pasteur. À quoi ça va servir un colloque comme celui-là?
Et ça, c'est très bien, une fois de voir, de faire le bilan. Nous avons travaillé 10 ans, nous avons pensé que nous avons établi un modèle intéressant. Mais d'autre part, il faut aussi regarder, est-ce que ça s'est encore approprié? Qu'est-ce qui sont vraiment les défis? Qu'est-ce qui sont encore les besoins? Où est-ce qu'on doit se concentrer? Et surtout aussi montrer aux gens, avec une initiative à travers de MSF, Médecins sans frontières, ce que ça donnait. C'est comme ça, c'est pas seulement rester un petit projet de MSF, mais un véritable mouvement. Et nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui si on n'aurait pas eu cette initiative de MSF. Et on veut aussi montrer qu'est-ce qu'on peut créer avec un engagement total pour les populations négligées dans notre monde.
Merci beaucoup, professeur Marcel Tanner. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse et président du conseil d'administration du DNDI. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.